kiosque sur la première.
Tell me about your own romantic life, if you will. Has it been as predictably pleasant and starry as your own books?
Yes, I had 49 proposals of marriage before I accepted one. And then I had a very unhappy first marriage.
Why?
Well, just didn't work, you know. It's a long time ago, and I was terribly, terribly unhappy. And then I married again and was terribly happy for 27 years.
If you'll forgive me saying so, you're very nearly 70 and still incredibly...
That is very unnecessary. I really do think we should never, 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 never mention a woman's age. And I say, all right, leave it in, but I'll say this. From the health point of view, from my work with the health, as you know, which is my one thing I'm frightfully keen on now, I want to sound as old as possible to show that the vitamins and honey, which I take, does so much good, you see. But from the romantic point of view, I don't want people to say she's too old to know anything about love.
70 ans et je ne suis pas trop vieille pour vous parler d'amour. Je sais ce que c'est que l'amour. J'ai eu 49 demandes en mariage avant d'en accepter une et puis deux et puis peut-être trois. Il faut vous imaginer que cette archive de 1970 de la BBC, c'est Barbara Cartland, pardon, à 10h du matin, toute couverte de strass qui minaude devant les journalistes. Car aujourd'hui, dans Kiosque, on ouvre les pages d'un mythe en rose. Un rose tellement éclatant qu'il pique les yeux d'ailleurs. Barbara Cartland, l'autrice prolifique, l'aristo excentrique, la reine du roman à l'eau de rose, gardienne farouche d'une morale qu'elle-même ne suivait qu'à moitié. Derrière les plumes, les froufrous, la vie de château, les déclarations à l'emporte-pièce, il y avait une certaine vision de l'amour, de la vertu, du mariage, mais aussi peut-être de l'ennui. Les splendeurs et misères de la reine, du romantisme explosent sur la scène du TTO dans un grand cri d'amour. Love, love, love. Et on en parle aujourd'hui avec trois de ses artisans, Aricia Dubois, Quentin Minon et Aurelio Mergola. Bonjour à vous trois.
Bonjour.
De concert, bienvenue. Aricia Dubois, Quentin Minon, on vous retrouve sur scène dans les rôles respectivement. On va y revenir de Daphné Bennett, la jeune secrétaire idéaliste. Et Georges Fischer, un amant homme trophée qui m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Aurelio, vous êtes metteur en scène. Vous commettez en scène avec Manuel Dellerba cette pièce. Alors, on vous connaît notamment pour votre travail au sein de la compagnie Still Life. Il y avait eu Timber la saison dernière pour vos collaborations récurrentes au théâtre de la Toison d'Or. On va citer notamment la mise en scène de Dernier coup de ciseau il n'y a pas si longtemps. Love, 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 c'est donc une comédie, j'ai envie de dire rose foncé, parce que ça commence comme de la comédie romantique et puis ça part sur tout à fait autre chose. C'est très librement inspiré de la vie de Lady Barbara Cartland. On va peut-être commencer par là, en fait, replacer quelques mots le pitch et peut-être nous dire qu'est-ce qui vous a donné envie, fin 2025, d'écrire sur la reine du roman à l'eau de rose du début du siècle dernier.
Alors, ça a commencé par Nathalie Huffner qui s'est réveillée un matin en se disant Barbara Cartland, elle a eu cette image de cette dame rose bonbon assise dans son canapé ou carrément allongée dans son canapé et elle m'a appelée en disant ah, j'aimerais que tu écrives un spectacle et que tu le mettes en scène. Et du coup, elle a aussi proposé à Emmanuel Dellerba. On s'est mis ensemble et on a écrit un texte pour les quatre comédiens indiennes qui jouent. Et le pitch est assez simple. C'est une Barbara Cartland fictive, mm-hmm. ça c'est très important, qui annonce à toute la presse internationale qu'elle va sortir son 200e roman, le plus exaltant, le plus dingue, le plus romantique. Et en fait, quand elle retourne dans son manoir, on va découvrir qu'elle n'a plus aucune idée et elle va essayer de trouver une solution. Mais je n'en dirai pas plus.
Ouais, il y a beaucoup de sujets, il y a beaucoup de couches justement, beaucoup de thématiques, mais justement, Barbara Cartland, on sait aujourd'hui tout fonctionne en cycle, il faut que ce soit suffisamment vieux pour que ça passe de ringard à vintage. Est-ce que ça faisait partie à tous les trois de votre imaginaire collectif, Barbara Cartland? Est-ce que vous en avez vu dans les bibliothèques de votre famille? Est-ce que vous en avez ouvert seulement? Est-ce qu'il y a encore des gens d'ailleurs qui lisent Barbara Cartland aujourd'hui?
C'est une bonne question. Moi, c'est la première fois que j'entendais, enfin, j'en avais déjà entendu parler de Barbara Cartland, mais en tout cas, personnellement, j'avais jamais lu de romans d'elle. Mm-hmm. Mais par contre, ça m'a beaucoup fait rire quand Emmanuel et Aurélio m'ont proposé de participer à ce projet, parce que du coup, je me suis renseigné sur Internet et on a découvert un peu la Barbara Cartland, et c'est vrai que c'est un fameux numéro. Quoi.
Qu'est-ce qui vous marquait ?
Ben, c'est déjà son rose. Elle est très excentrique dans sa manière d'être et d'être interviewée aussi. Et oui, c'est assez un personnage assez curieux, quoi.
Mmh.
Ouais. Bah, pareil que Quentin, moi, je n'avais jamais entendu parler de Barbara, donc je suis également allée me renseigner sur Internet. Et je trouvais que c'était déjà un personnage très théâtral, donc je me suis dit que ça ne pouvait que mettre ce spectacle en valeur, parce que c'est hyper nutritif.
nourritif.
Ça se mange.
Ça se mange, voilà.
Alors, c'est vrai que Barbara Cartland, elle est incarnée sur scène par Marie-Paul Kums. Elle est, en tout cas, le soir où je l'ai vue, effectivement plus grande que nature. Mais c'est vrai que Barbara Cartland elle-même était déjà un personnage public hyper construit, qui portait du maquillage quasiment de scène au quotidien, qui portait des bijoux extravagants, qui était toujours en rose ou en blanc avec des fourrures. C'était quoi ici justement, peut-être le mot d'ordre pour la construction des personnages? Parce qu'il y a ce personnage qui prend beaucoup de place, et puis il faut faire exister les trois autres personnages de la pièce autour. C'était pousser les taquets le plus loin possible, ou au contraire la ramener à un peu d'humanité?
En fait, dans le travail, on a d'abord cherché à être sincères et à jouer ensemble. Après, le mot d'ordre, c'était plutôt les inspirations. On a partagé assez vite l'univers du cœur à ses raisons, ou de deux films, L'amour où va si bien et She Devil,
oui.
En disant voilà, n'hésitez pas à vous inspirer de ça, parce que c'est ce degré-là de jeu qu'on souhaiterait avoir au plateau.
Ça veut dire que dès le départ, vous aviez une ligne très claire de ce que vous vouliez présenter du personnage aujourd'hui sur scène?
Oui, alors très vite avec Emmanuel, on s'est dit on va pas faire un biopic parce qu'en fait la jeune génération qui est face à nous ne connaissait pas Barbara Cartland. Et Nathalie nous a vraiment dit, moi c'est le personnage kitsch, cet univers pop que je veux mettre sur le plateau. Et donc en cherchant, en lisant sa biographie et tout, c'est vrai que Barbara Cartland n'a pas une vie très intéressante dans sa vie privée. Et à part aller sur les plateaux TV dire j'ai écrit 723 romans, elle n'en dit pas plus sur sa vie privée. Donc on a décidé d'aller vraiment dans le fictif et plutôt d'utiliser son univers pour le plaquer sur le plateau, quoi. C'est plutôt cette espèce de construction narrative qu'elle a dans ses romans qu'on a utilisé comme ingrédient pour écrire ce spectacle.
Ouais, d'ailleurs, la scénographie et les costumes sont des personnages en soi. On va quand même citer Chandra Velout et Charlie Kleinerman. Est-ce qu'on peut-être en dire un peu sans trop en dire, parce qu'il y a quand même des effets visuels, on ne veut pas gâcher toutes les surprises, mais il y a quand même des moments, des effets de costumes qui sont assez dingues. Là aussi, vous avez d'abord travaillé les tableaux esthétiques, en surcouche par rapport à l'histoire que vous étiez en train de développer. Comment ça s'est passé justement?
Non, assez vite, on a écrit, pour vous dire, avec Emmanuel Delherba, je vais le redire son prénom, si vous n'allez pas être content, Emmanuel Delherba, on a un terrain de jeu assez commun, avec plein de blagues qu'on veut toujours mettre dans les spectacles, donc on a une belle réserve, et donc c'était prétexte aussi pour aller mettre tout ça au plateau. Donc par exemple, on peut dire, à un moment, on invite Disney sur le plateau, on a ce bagage commun d'aimer Disney, d'aimer Mickey, et donc on se dit, on a un costume, allons-y. Voilà. Ouais.
Alors, c'est vrai que si la jeune génération ne connaît pas Barbara Cartland, ce qui est assez jouissif, c'est que le script, finalement, des rebondissements, il est plus ou moins connu, parce qu'on part de cette panne d'inspiration de cette autrice qui doit fournir un nouveau roman parce qu'elle l'a annoncé et qui se met à paniquer. Et puis on bascule dans un espèce de triangle, enfin, qui va devenir un carré amoureux, où on a la pauvre secrétaire qui est jouée par Monia Douyeb, qui s'appelle Ruth Fisher. Et donc effectivement, il y a un beau clin d'œil au film La Diable avec Meryl Streep et Roseanne Barr. Retournez voir si vous ne vous souvenez pas du film. Qui est cette femme très loyale, un peu effacée, qui se défend pas par rapport à cette patronne hyper excentrique, mais qui a un vrai talent d'écriture et qui va tout se faire piquer en quasiment 24 heures, son manuscrit, son mari, son boulot, et qui va se retrouver mise au banc et qui va fomenter un plan de vengeance dans lequel, Aricia, vous allez jouer un jeu bien malgré vous.
Tout à fait.
Et finalement, en fait, ce scénario, on le connaît pour l'avoir vu mille fois dans des films, des téléfilms. C'est une façon de faire diversion pour amener le décalage, ou c'était pour justement donner des clés assez simples de lecture et se dire « Ok, le scénario, il est cadré et on va pouvoir s'amuser dessus et faire de la comédie ».
Mais vous avez raison, le scénario est assez simple. Il tient sur une ligne, je pense. mais parce qu'en fait, les romans de Barbara Cartland tiennent sur une ligne. C'est toujours une jeune, carrément vierge tout le temps chez Barbara Cartland, qui est très puritaine. Un bel homme sur son cheval blanc qui arrive, et l'amour toujours pas forcément consenti de la jeune première. Et donc voilà, c'est ça. Et donc nous, on a pris exactement la même chose en se disant, mais en fait, à la place de la jeune première, on va peut-être mettre un homme qui va tomber dans le piège de trois femmes. Voilà, donc en fait, c'était assez simple, entre guillemets, d'écrire la trame narrative. Et après, après, oui, tout le délire d'aller le plus loin possible, de faire des rebondissements auxquels peut-être les gens ne s'attendent pas forcément. Ça, c'était la part sympa du travail aussi, quoi.
Ouais.
Comment on construit un délire? Parce que c'est rigolo, je vous vois tous les trois depuis le début de cette conversation. Vous riez encore, vous souriez encore comme des gamins, comme si vous étiez des ados en parlant de ces personnages. Comment, à un moment, en partant d'une histoire simple, d'un scénario très simple, on construit un délire pour que nous, ben, un public, ben, on rit avec vous?
On a eu des, effectivement, on a Aurélio et Emmanuel nous ont donné des points de repère, par exemple les films effectivement qu'on vient de citer. Et c'est vrai que c'est assez jouant, et donc du coup on s'est beaucoup inspiré forcément de cet univers. Moi personnellement, effectivement, je n'ai jamais lu les romans de Barbara, quoi qu'il y en a 723.
Il y a de quoi faire.
Tu peux commencer.
Exactement, mais ce qui était aussi compliqué dans le travail, c'est que, enfin compliqué mais gay à la fois, mais c'est ce côté caricatural, essayer de trouver quelque chose de grossir un peu les traits, mais tout rester dans la sincérité, quoi. Mmh. Et donc ça c'est vraiment, je trouve en tout cas, le principal objectif en tout cas et challenge dans ce spectacle, c'est d'être sincère mais en faire un petit peu des tonnes. Mmh. Ça doit un petit peu chipoter l'œil et chatouiller les oreilles, et c'est vrai que on a toujours aussi cette indication d'upgrader un petit peu, faut aller un petit peu plus haut et plus loin que l'ordinaire, quoi. Mmh. Mais tout en restant sincère.
Et en l'occurrence, vous jouez Georges Fischer, le mari de Rousse, la pauvre secrétaire Floué. Alors c'est un gars complètement ordinaire qui va vriller parce qu'il va être ébloui par cette Barbara Cartland qui est plus âgée que lui, qui va l'accaparer.
Ah oui, plus âgée que lui.
Mais on va y revenir justement parce que ça m'a intéressé. Qui va l'accaparer. Ils vont se lancer dans une histoire d'amour, et puis en fait cet homme tout à fait ordinaire va en fait attraper le syndrome du personnage principal et se prendre en fait finalement lui-même pour un héros de sa nouvelle amoureuse.
Exactement. Il y a effectivement un énorme plaisir parce que c'est quelqu'un de, en tout cas moi dans mon inconscient, en tout cas ce que moi je me suis créé autour du personnage, c'est effectivement quelqu'un de très simple. Il est assez maniaque dans la vie, et je crois qu'il fait beaucoup à la maison, il range beaucoup, un petit peu comme moi je pense aussi. dans la manière d'être au quotidien, et effectivement, en tout cas, c'est ce qui est intéressant. En tout cas, moi, quand j'essaie de créer un personnage, c'est de trouver les failles, et voilà, ça fait partie des failles de Georges. Et effectivement, il y a quelque chose dans l'ordre de l'ordinaire qui, au final, devient un petit peu une routine, et il y a quelque chose chez Barbara qui le change, qui le transforme, et donc du coup, il revit un peu, il renaît. Mm-hmm. Et effectivement, il trouve un certain plaisir à jouer, quoi.
Ouais. D'ailleurs, c'est un peu le point commun entre vos deux personnages, c'est qu'ils sont profondément sincères. Ils arrivent, Daphné arrive avec toute son admiration. C'est la chance de sa vie,
ouais.
De travailler pour Barbara Cartland. Elle est très idéaliste, elle est très travailleuse, et elle va tomber en fait dans ce cirque. Elle va vite déchanter. Elle représente quoi pour vous en fait cette jeune femme dans cette dynamique?
Elle représente un peu l'ordre dans le chaos. Enfin, elle arrive avec cette candeur et cette envie d'arriver avec le travail de ses rêves, comme un tremplin, quoi. Et puis en fait, finalement, elle déchante complètement dans cet univers rose bonbon avec Barbara qui est en train de vivre une idylle complètement folle avec son nouvel amant. Et en fait, elle se rend compte que rien ne va, qu'elle est complètement transparente, que tout ce qu'elle propose ne sert à rien, et qu'en fait, à un moment, elle va littéralement péter un plomb. Mm-hmm. Et je n'en dis pas plus, parce que vous verrez. Mais elle a des raisons.
Ouais. Voilà. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que le moment où Daphné entre en scène, c'est le moment où elle s'attendrait à ce qu'elle soit la nouvelle jeune première qui va évincer la Barbara Cartland vieillissante. En fait, c'est pas du tout ça qui se passe, parce qu'on peut voir la scène de deux façons. On a soit la méchante star toute puissante qui a piqué le mari de son employé, etc. Mais ce qu'on voit aussi, c'est une femme de plus de 60 ans qui décide de se taper un petit jeune et qui redécouvre sa sexualité après une longue période de célibat. Et finalement, dans le public, on ne sait pas trop de quel côté placer sa loyauté, parce qu'on se dit qu'elle fait des trucs horribles, mais en même temps, on est très content pour elle.
Mais elle fait des trucs horribles. Après, il y a une réplique dans le spectacle, je crois que c'est Georges qui dit. Georges dit elle a révélé le héros en moi et elle a révélé le roman en toi. En fait, oui, le personnage de Barbara est monstrueux. C'est un monstre sur scène, mais même les monstres ont envie de retrouver le désir, de de retrouver une autre jeunesse, de rêver. Enfin, en fait, la vraie Barbara Cartland, en tout cas, quand on lit la biographie et tout, il y a quelque chose d'assez sinistre. Elle ne faisait que travailler. C'est vraiment le rythme anglais où de 9h du matin à 22h, elle travaillait, elle sortait un petit peu. Et ici, c'était ça aussi, ce plaisir de cette femme de 60 ans, de pouvoir lui permettre de revivre des choses et de continuer à expérimenter la vie, quoi.
Est-ce que, quelque part, il y avait quand même, de votre côté, le désir de mettre cette thématique en avant, de se dire à 60, 70 ans, etc., ben allez-y, hein, vivez, revivez ce que vous avez envie de vivre, ou pas spécialement?
Alors, elle n'est pas arrivée comme ça, mais elle est arrivée parce qu'avec Emmanuel, on s'est dit, en fait, on veut se venger un peu de Barbara Cartland, dans le sens où elle est beaucoup lue, elle est encore lue maintenant, alors de moins en moins, mais elle a écrit plus de 700 romans et elle a vraiment façonné dans nos inconscients collectifs une espèce de schéma de la jeune femme qui doit tomber en amour pour un homme qui la maltraite un peu. Et donc, on s'est dit non, en fait, on va se venger de ça. Elle était très, malgré son image cuir, elle était homophobe, elle avait des propos assez terribles sur les homosexuels. Et du coup, j'ai oublié votre question, mais... Ce que je veux dire, c'est que oui, il y avait cette envie de montrer ces love, 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 ces trois femmes et un homme, c'est changer tous les rôles et être très contemporain dans l'écriture par rapport à ça. C'est revenu.
C'est vrai que vous placez l'action, qui est fictive, on le rappelle, mais vous la placez quand même en 1979. C'est pas anodin, ça, finalement. Pourquoi cette année-là, précisément ?
Ça, je ne sais pas, c'est vous qui allez me le dire.
En tout cas, mais je ne peux pas révéler la fin de la pièce, mais il y a quand même l'idée d'une fin de cycle aussi sur le plan de la société, parce qu'on commence quand même sur une conférence de presse où Barbara Cartland défend sa vision de l'amour chaste romantique, et elle a quand même face à elle une bande de journalistes qui disent « Oui, mais quand même, est-ce que vous êtes certaine que ça correspond toujours aux idéaux de la jeunesse aujourd'hui, etc. ?» Et la suite va lui prouver que peut-être pas, finalement.
Oui, sûrement. Mais moi, je suis un peu inquiet du retour de flamme, quand même, parce que, OK, en 1979, et puis il y a les années 80 qui arrivent à un moment, mais là en 2025 ça évolue bien, et puis j'ai l'impression que ça dévolue, je sais pas si ça se dit, ça régresse, voilà. Donc moi je trouve ça toujours un peu inquiétant quand même.
Faut jamais arrêter de taper sur le clou.
Ouais,
tout à fait.
Alors la musique, on en a pas encore parlé, mais elle prend effectivement aussi une très très grande place dans cette pièce. Il y a beaucoup de moments pop, il y a beaucoup de moments chorégraphiés, ça amène des surprises, ça amène beaucoup de rire aussi dans la salle. Ça raconte là aussi beaucoup de la façon dont tous et toutes, en tant que public, qui mangeons des films, des séries, des pièces de théâtre, etc., on a aussi été habitués à la façon dont on scénarise nos histoires d'amour. Et ça aussi, ça nous ramène à ces schémas inconscients. J'imagine qu'il y a eu des choix très précis qui ont été faits là aussi dans la bande-son pour appuyer certains moments.
Oui, la bande-son a clairement une place à jouer dans le spectacle. Elle nous permet d'appuyer parfois certains sentiments chez les comédiens indiennes, enfin les personnages, d'évoluer aussi, enfin de faire évoluer les récits, et aussi de ramener une touche très contemporaine à un moment. Il y a clairement de la house à un moment, parce que c'est pop et c'est délirant.
Mmh. Oui, et pour rappeler, à la scénographie, il y avait Florence Lecoq et Jérôme Louis à la danse aussi, qu'on avait oublié de dire.
Alors, il y a plusieurs thèmes très vrais aussi qui sont abordés, notamment, on l'a dit, celui de l'obligation de performance pour maintenir son statut d'artiste et continuer à fournir, à produire, à faire du toujours plus fort, toujours plus loin, même quand on se sent vidé de sa substance, mais qu'on n'arrive pas à décrocher. Est-ce que ça, à tous et toutes qui êtes sur le plateau et juste à côté et qui bossez tous les jours, ça vous parle, ça vous hante parfois?
Bah, oui, enfin, de devoir produire sans cesse et de devoir... On en parle souvent entre nous quand on est en répétition, de se dire ah ok, bah là on va accepter tel ou tel truc en plus, mince j'ai pas le temps, alors on va essayer de caler ça le soir. Enfin, par exemple, quand Taïmo, on fait du doublage, et donc on essaye de caler ça à plein de moments, notamment le soir si on est en répétition la journée, et parfois ça se met pas, mais donc tout ce qu'on accepte, c'est tout ce qui est bon à prendre pour manger. Donc parfois oui, on prend beaucoup, parfois trop, mais voilà, parfois c'est pas toujours une question de choix.
Et pour certains, c'est jamais assez.
Tout à fait.
Ouais, puis il y a cette fameuse phrase « choisir, c'est renoncer ». C'est vrai que parfois, on accepte des projets qui sont artistiquement hyper intéressants, qui nous permettent aussi d'évoluer dans ce qu'on fait, mais c'est vrai que parfois, financièrement, c'est compliqué. Donc, il faut parfois choisir entre le financier, le désir de créer des choses qui vraiment nous transportent et nous permettent aussi d'évoluer en tant que comédien, comédienne, acteur, actrice. C'est, oui, c'est des choix à faire parfois. C'est vrai que c'est compliqué. On ne devrait pas se poser ce genre de questions, en fait.
Ouais. Dans le cas d'une figure comme Barbara Cartland, qui semble déjà tout avoir, qui n'est pas dans le besoin, qui a construit quelque chose, cette impossibilité de décrocher, vous la comprenez, vous, en tant qu'artiste? Vous vous sentez en empathie avec ça? Ou vous vous dites, non, moi, si moi ça m'arrive, à un moment, je mets un stop et je m'autorise une sortie de scène?
Ben, on est toujours... en tout cas, moi, pour ma part, avant une première, je me demande toujours aussi pourquoi je fais ce métier. je suis en stress. Enfin, je veux dire, je pense que c'est, et c'est normal. Ça fait partie du taf, du game. Mais effectivement, il y a toujours cette question. Donc moi, je me pose souvent la question. Mais au final, c'est ce qui me fait vibrer. Et... J'ai oublié la question. C'était quoi la question?
Non, vous y avez très bien répondu, même en l'ayant oublié. C'était super. C'était ce que vous vous sentez en empathie avec des superstars qui n'arrivent pas à décrocher, quitte à aller dans des extrémités.
Oui, c'est ça.
Dernière question piège. Le premier qui répond aura un chocolat à la sortie. Qu'est-ce qu'il faut retenir de l'amour s'il faut retenir qu'une seule chose de love, love, love?
Oh, la question.
Moi, je dirais qu'il faut consommer l'amour de plus en plus. Voilà.
Oh, ouais, je ne sais pas. Joker, j'arrive pas. Non, je ne sais pas.
Bien, moi, pour moi, l'amour, c'est quelque chose de...
On restera là-dessus. Love, 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 en tout cas. C'est à voir au Théâtre de la Toison d'Or jusqu'au 15 janvier, avec, je crois, une représentation le soir du Nouvel An.
Carrément, le 31 décembre à 22h30.
Oui.
Avec du champagne, je crois.
Ah oui, voilà. Évidemment.
Et on peut citer Marie-Paul Kums, qui forcément fait Barbara Cartland, et Monia Douyeb, qui fait Rousse.
Voilà, merci de les avoir rappelés. Toutes les informations sont sur tto.be. Merci à tous les trois.
Ben, merci beaucoup.
Et on retiendra quand même, en parlant d'amour, que choisir, c'est renoncer.
Kiosque sur la première.